Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 30 septembre 2025, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. 11 suspects ont été arrêtés en Serbie suite à la découverte de 9 têtes de cochon devant des mosquées en région parisienne. Les animaux marins sont, eux, en danger. Nous approchons dangereusement des limites planétaires, alerte le dernier rapport Copernicus sur les océans. Aujourd'hui, la grand-mère d'Amélie Nothomb était une tueuse en série de chats. C'est ce qu'a révélé l'autrice au micro de RTL. L'actualité est dure envers nos amis les animaux en ce moment. Mais pendant ce temps, il paraît que le raton laveur est en train de coloniser la France. Il ferait de gros dégâts en Gironde notamment, selon France Info. Le raton laveur, vengeur masqué de l'espèce animale. J'aime bien l'idée. Bref, je clôt le chapitre animal tout de suite. Le flash de Roman.
Une poignée de main, deux pouces levés, c'est l'image de Benjamin Netanyahou et Donald Trump hier soir à la Maison Blanche. Alors, une paix à Gaza est-elle envisageable ? Les deux dirigeants ont annoncé s'être entendus sur un plan en 20 points pour une paix durable dans la bande de Gaza. Alors, quels sont ces 20 points, Estelle ?
Grande journée de notre civilisation, car il a obtenu le soutien de Netanyahou pour son plan de paix à Gaza suite à la conférence de hier soir à Washington. Maintenant, c'est au Hamas de donner ou non son feu vert. Sinon, prévient Netanyahou, Israël finira le travail.
Mais alors, que prévoit ce plan ?
D'abord, le désarmement du Hamas. Les membres qui rendront les armes et accepteront une coexistence pacifique avec Israël seront amnistiés. Ceux qui voudront partir de Gaza bénéficieront d'un droit de passage protégé vers des pays voisins. Ensuite, la libération des otages et des prisonniers. Le plan prévoit qu'Israël se retire de Gaza par étapes pour préparer une ligne de libération des otages. Les otages devront être libérés dans les 72 heures suivant l'acceptation de l'accord. En retour, Israël libérera 250 prisonniers condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 Gazaouis détenus depuis le 7 octobre 2023. De plus, le plan prévoit qu'une aide humanitaire complète sera immédiatement envoyée à Gaza après l'entrée en vigueur d'un accord sans interférence. Celle-ci se fera via les Nations Unies ainsi que leurs agences et la Croix-Rouge. Puis, une autorité temporaire sera mise en place. Elle sera supervisée par un comité de paix présidé par Donald Trump lui-même. Autour de lui, des experts, des dirigeants des pays arabes et d'Israël, ainsi que l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair. Le Hamas sera, lui, exclu de la gouvernance. Ce plan, il voit plus loin. Trump ne parle plus de Riviera, mais il souhaite reconstruire et dynamiser l'enclave palestinienne. Selon le plan, personne ne sera forcé à quitter Gaza, alors qu'il avait évoqué il y a quelques mois l'idée de vider le territoire de ses habitants. Également, une force de stabilisation sera déployée avec l'aide d'États arabes. Elle formera la future police palestinienne et assurera la sécurité. Et l'autorité palestinienne dans un État indépendant dans tout ça. Trump entrevoit un rôle pour prendre le relais à Gaza, mais Netanyahou, lui, est catégorique. Aucun rôle pour elle. La communauté internationale réagit. 8 pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie et le Pakistan, saluent les efforts de Trump. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, y voit un moment à saisir, d'après France Inter. Emmanuel Macron, lui, reste prudent. La France, dit-il, sera vigilante quant aux engagements des deux parties.
Jusqu'ici, toutes les tentatives de cesser le feu portées par Washington ont échoué, faute d'accord avec le Hamas. Mais cette fois, Donald Trump dit avoir le sentiment que nous aurons une réponse positive. 22 millions de dollars, c'est la somme que YouTube a accepté de verser à Donald Trump. Le compromis a été validé par une juge fédérale d'Oakland en Californie hier. Le président américain avait entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de la plateforme. Son compte avait été supprimé en janvier 2021. À l'époque, la plateforme états-unienne évoquait une infraction de son règlement. Non réélu, Donald Trump avait alors appelé à contester physiquement le résultat du scrutin présidentiel. Avec cet accord financier, YouTube ne reconnaît aucun tort et évite ainsi un procès. Selon les avocats du chef d'État, la somme devrait être reversée à un trust présidentiel et elle devrait ensuite servir à financer la construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche. La Gen Z se révolte à Madagascar. La jeune génération se révolte et partage son ras-le-bol sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues. Ils et elles sont des milliers de manifestants et manifestantes à protester contre la pauvreté. 75% de la population serait sous le seuil de la pauvreté. Mais ils et elles protestent aussi contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Hier, André Rajoelina, le président de l'île, a annoncé face aux manifestations le renvoi du gouvernement. À Antananarivo, les grenades lacrymogènes ont semé le chaos. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées en moins de 5 jours lors de pillages, d'après le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU.
On se retrouve dans ces feuilles, Roman. Voilà, on y est.
Super.
Super. Quelle est la suite?
MaPrimeRénov redémarre au compte-gouttes après 3 mois de suspension. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique rouvre ce 30 septembre dans des conditions très restreintes. Seulement 13 000 nouveaux dossiers seront acceptés d'ici fin 2025 contre plus de 70 000 demandes au premier semestre. Les conditions se durcissent, plafond de travaux abaissé, réservé aux logements classés E, F ou G. Les dossiers ne seront examinés qu'en 2026, sous réserve du vote du budget par le gouvernement. Les professionnels dénoncent un retour en arrière dramatique après des années d'efforts pour développer la rénovation performante, d'après le média Reporter. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, c'est la peine requise contre Gaël Perdriau après 6 jours de procès. Le maire de Saint-Étienne est jugé pour chantage à la sextape par le tribunal correctionnel de Lyon. L'édile est accusé d'avoir orchestré un piège contre son premier adjoint, Gilles Artigue, filmé à son insu en 2015 dans une chambre d'hôtel. La procureure Audrey Kay se désigne comme le décideur qui a validé le piège. L'application immédiate de l'inéligibilité l'empêcherait de se présenter au municipal de mars 2026.
Il dure ce mot,
inéligibilité. Il avait dû fermer lors de cette journée de manifestation. Le pont de l'Alma a rouvert partiellement ce matin à 6h. Il était fermé à la circulation dans le sens Nantes-Rennes, et ce, depuis le mercredi 10 septembre, suite au mouvement Bloquons tout. Le pont avait été fragilisé par les flammes d'un bus incendié lors de la manifestation. La circulation reprend sur la voie de droite uniquement dans le sens Nantes-Rennes, réservé aux véhicules de moins de 44 tonnes. La voie de gauche et la bretelle d'accès depuis la rocade restent fermées. Des expertises en laboratoire se poursuivent jusqu'à mi-octobre pour déterminer l'ampleur des travaux de réparation. L'enquête pour retrouver les auteurs de l'incendie volontaire du bus se poursuit sans interpellation à ce stade. Jeudi 18 septembre, la France a connu une nouvelle vague de manifestations, cette fois fortement syndicalisée. À Rennes, près de 20 000 personnes se sont réunies dans les rues pour protester contre les mesures budgétaires du gouvernement.
C'est pas à nous de payer 44 milliards, c'est pas à nous de payer toutes ces conneries. Je veux dire, il y a déjà assez de gens qui se gaffent tous les jours, qui en prennent plein les poches et qui branlent rien. Et nous, on va travailler.
Drapeau hissé et poing en l'air, les rues rennaises sont noires de monde. Il est impossible de discerner le début et la fin de la marche. Une fanfare donne le ton. Parmi les citoyennes et citoyens révoltés, Delphine nous explique pourquoi il est important de se rendre à un tel événement.
Moi, je suis psychologue au CHU de Rennes. Je viens aujourd'hui manifester comme à chaque fois qu'on manifeste nous à l'hôpital, c'est pour plus d'effectifs. C'est une aide-soignante pour 15 personnes. Je ne sais pas comment dire, mais c'est la misère. C'est la misère là en ce moment. C'est, donc non, il faut que ça s'arrête là. On peut pas, c'est 40 milliards d'économies là qu'il veut faire. Ça ne peut pas être sur ni l'hôpital, ni l'éducation nationale, ni sur les services publics. Ça va finir par péter peut-être.
Collectifs, syndicats, associations, sur place les revendications sont variées, mais la cause d'une même colère.
Je m'appelle Marc et je suis militant, on est tous militants du pôle de Renaissance communiste en France, du PRCF. Et on pense qu'il faut converger Parce qu'au bout d'un moment, les manifs sont plus là, sont lendemain avec parcours prédéterminé, c'est pas ça ce qui les fera reculer. Ce qui les fera reculer, c'est la grève générale et le blocage de leurs profits et qu'on monte sur le lieu de pouvoir. Et c'est là qu'ils vont avoir peur.
Violette, et du coup je fais partie du collectif Nous Toutes 35 Graines. Et du coup, nous, on est là aussi pour défendre ce qu'on défend au niveau féministe, à savoir que tout le problème du budget, ça rejaillit en priorité sur les femmes, les minorités de genre.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit nommer son gouvernement dans les jours à venir. En attendant, l'intersyndicale d'Ille-et-Vilaine appelle à une mobilisation forte ce jeudi 2 octobre. L'organisation compte passer au cran supérieur en amplifiant les grèves.
Merci Lafken pour ce reportage et on suivra de près les mobilisations annoncées pour cette semaine. Plus d'embuscades pour le Saint-Michel, le bar emblématique de la rue de la Soif à Rennes ferme ses portes aujourd'hui. Après plus de 30 ans d'existence, l'établissement a été racheté par Territoire Public, l'aménageur de Rennes Métropole. L'objectif est de réhabiliter l'immeuble. La gérante Alison Koch, 28 ans, qui a succédé à ses parents, part avec une compensation financière. Depuis 15 ans, la ville a utilisé régulièrement son droit de préemption pour racheter plusieurs bars mythiques de la rue. Aujourd'hui, Territoire Public possède la moitié des locaux commerciaux de la rue, selon le Ouest France. Avis aux fans de créatures fantastiques et de hurlements dans la nuit, dès demain, le festival Court-Métrange est de retour à Rennes. Laurine Tout-le-Monde, référent sur les projets d'exposition, et Benoît Chrétien, coordinateur général de Court-Métrage, nous donne les détails de cette 21e édition, mettant à l'honneur les bêtes et créatures surnaturelles.
On explore l'animalité cette année. On trouvait que c'était important et chouette d'explorer concrètement et par plusieurs manières, que ce soit par les arts plastiques, le cinéma, les discussions, toute cette thématique. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut très bien être les animaux simplement, l'hybridité, mais aussi la bestialité et l'animalité aussi chez l'être humain qui nous paraît importante d'évoquer.
Et puis le mot « t'es bête », du coup, qui vient de la bêtise, qui renvoie directement à la forme animale et du coup qui fait une distinction entre l'homme et l'humain.
Tout comme la bestialité chez l'être humain, presque la bêtise est animale, c'est aussi une question qu'on laisse en suspens.
Vous avez eu Benoît à l'antenne, enfin en enregistrement, pour parler des difficultés, rencontres Court-Métrange. Comment se porte l'asso pour cette 21e édition ?
La cagnotte qu'on a pu mettre en place a bien fonctionné, donc a permis de faire cette édition. Donc voilà, maintenant on compte sur les gens pour venir le plus nombreux possible aux séances pour pouvoir boucher le trou. La cagnotte existe toujours et le mécénat avec grand plaisir, ils sont bienvenus. Et après, sous forme de bénévolat, pour venir aider les équipes aussi, parce qu'humainement en parlant, du coup, c'est compliqué aussi puisqu'on ne peut pas payer beaucoup de prestataires, donc il y a toujours des choses à faire.
Retrouvez le programme du festival du court-métrange de genre sur courtmétrange.eu.
Merci Romane, c'était ton premier flash dans 6h avant minuit. Et si vous voulez entendre Romane, son flash c'est tous les mardis.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est l'heure de l'interview et ce soir, c'est Lafken qui a une invitée.
Tout à fait. Venue du Blône à Villejean à vélo, aujourd'hui nous recevons Odile Baudou, secrétaire générale et coprogrammatrice du Triangle. Bonjour.
Bonjour.
Donc le Triangle, c'est un lieu culturel incontournable de Rennes, situé en plein cœur du quartier du Blône. Le bâtiment et l'association du Triangle voient le jour au début des années 80. Et en 2019, c'est la consécration puisque le Triangle devient officiellement une scène conventionnée d'intérêt national à récréation pour la danse. Aujourd'hui, le Triangle, la cité de la danse, accueille et transmet de tout, pour tout le monde. Odile Baudou, pour vous, le Triangle porte quelles valeurs, quels messages on fait passer chez le Triangle ?
Alors, je dirais qu'il y a un maître mot qui est l'accessibilité. Alors évidemment, en lien avec la danse est très présente. On est effectivement une scène conventionnée d'intérêt national à récréation danse. Bon, c'est un titre un peu long. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement toutes les activités tournent quasiment autour de la danse. Et pour la partager, effectivement, on a ce souci incessant de l'accessibilité, de l'inclusivité pour faire rayonner cet art et faire participer un maximum d'habitants à cette bel endroit. On a vraiment à cœur que ce lieu soit très ouvert.
Et justement, sur le site du Triangle, on peut lire que le lieu est une invitation à ouvrir la danse au métissage et à l'interdisciplinarité. Qu'est-ce que cela sous-entend ?
Cela sous-entend que la danse, en fait, est très accueillante. C'est vrai qu'on a souvent des spectacles de danse qui peuvent être hybridés avec des arts plastiques, avec de la littérature, du cirque, que sais-je. Et c'est vrai que c'est une des spécificités, je pense, de la danse. Pas uniquement de la danse, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est un art qui est très invitant et qu'on souhaite donner à voir au public dans nos saisons.
Et justement, c'était la question que j'allais poser avant d'en venir à la programmation pour cette saison 2025-2026. Effectivement, est-ce qu'au Triangle, on n'y fait que de la danse ? Simplement pour recontextualiser un petit peu pour les auditrices, les auditeurs, on fait quoi au Triangle ? Qu'est-ce qu'on vient voir, entendre, ressentir en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'artiste ?
Alors, en tant que spectateur, effectivement, on vient voir quasiment exclusivement de la danse, qui est parfois hybridée par d'autres arts, comme je disais tout à l'heure. On vient aussi pratiquer. Je pense qu'il y a aussi cette dimension qui est peut-être un peu moins connue de pratiques artistiques amateurs. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 personnes qui viennent toutes les semaines pour pratiquer notamment de la danse, mais pas que, aussi du yoga, des arts plastiques, du clown et que sais-je encore. Donc c'est vraiment une sorte de ruche. À partir du fin mi-septembre jusqu'au mois de juin, on a toutes ces personnes qui viennent toucher, appréhender de différents arts dans nos murs. Donc c'est vraiment très 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 riche aussi, puisque ces personnes aussi viennent, rencontrent des artistes, vont voir des spectacles, etc. Bon, évidemment, c'est pas exclusivement pour elles que la programmation est faite, mais en tout cas, c'est une dimension du projet qui est aussi importante.
Et allons-y, parlons maintenant de la programmation, du spectacle, des rencontres, de la pratique, comme vous l'avez cité juste avant, du français, mais aussi de l'espagnol ou de l'allemand, avec des artistes comme Bana ou Iron Mike. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la programmation de cette saison ?
Alors, oui, je pourrais vous dire beaucoup de choses sur la programmation. Effectivement, on a déjà démarré la saison. Mais en tout cas, samedi prochain, sachez que le Focus Funk, qui est programmé avec la compagnie et qui est vraiment organisé avec la compagnie Engrenage, que vous connaissez, vous avez sans doute déjà invité dans vos murs, qui est une compagnie, qui est une association qui est à la fois sur la musique et la danse. Donc, c'est un événement sur les danses funk. Donc, les danses funk, ces danses et cette musique des années 70, qui est très dansante et très, très joyeuse. Donc l'idée, c'est de proposer un battle de locking et popping, donc qui sont vraiment deux spécificités du funk. Donc c'est vraiment toute une après-midi, c'est très familial. Ça commence par une après-midi où tout est gratuit sous le préau du Triangle, avec des cyphers, donc des présélections, avec un soul train où tout un chacun peut s'essayer au soul train et participer à ces grandes fêtes de danse collective. Et puis ensuite, on passe dans la salle pour le battle de locking et popping. Voilà, avec des personnes, des danseurs qui viennent du Kazakhstan, si les visas fonctionnent. Voilà, et puis des personnes qui viennent un peu partout en France pour participer à cette battle.
Donc effectivement, on a vraiment une pluralité dans les disciplines au Triangle. Et pour ce qui est des artistes, comment est-ce que le Triangle choisit les artistes de la saison ? On en a cité quelques-uns et j'en ai oublié. Si d'autres vous viennent à l'esprit, je vous en prie. Mais c'est quoi un petit peu les critères que le Triangle veut retrouver chez les personnalités invitées ? Comment est-ce qu'on choisit ?
Grande question, parce qu'en fait, il y a multitude de critères, et il y a aussi cette préoccupation d'avoir une programmation qui soit dans la diversité, qui s'adresse à des publics aussi différents, enfin d'âges différents par exemple, mais pas que, et donc dans l'idée aussi qu'un public qui viendrait voir tous les spectacles puisse vraiment se faire un chemin au milieu de la diversité de la danse contemporaine, puisqu'en fait elle est extrêmement diverse. La danse contemporaine, c'est vraiment la danse d'aujourd'hui, et donc tout existe. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très très compliqué de vous donner un critère qui nous permette de sélectionner, à part l'exigence artistique, ça c'est certain. Après, c'est vrai qu'il y a des préoccupations, on en parlait tout à l'heure, politiques et sociétales, ça c'est certain. Donc par exemple, avec l'invitation de la création d'Anne Nguyen, matière première, donc celle-là, il s'agit d'un ballet de danse africaine urbaine, avec 6 danseurs et danseuses, et qui vont, dans une sorte de transe, mettre au service cette danse pour parler des symboles de domination, pour parler de la décolonisation aussi. Donc il y a vraiment un propos très, très politique dans cette pièce. Donc ça nous importe de présenter ce type de pièce, qui en même temps vous emporte. C'est une pièce extrêmement puissante, c'est très épuré, mais c'est vraiment c'est virtuose, et en même temps avec un propos très très fort. Donc voilà, je vous invite à réserver très très vite vos places pour cette pièce aussi, parce que ça part très vite.
Et ben avec grand plaisir. Justement, en parlant de cette pluralité, et tout à l'heure vous avez cité des artistes qui viennent du Kazakhstan. On a aussi vu donc de l'Allemagne, de l'Espagne. Comment on entre en contact avec des artistes internationaux, et pourquoi demander des artistes internationaux au Triangle et pas uniquement français?
Parce que, alors, il y a évidemment toujours cette préoccupation, et de plus en plus quand même environnementale. Donc il est clair que les artistes internationaux, on est très attentifs à ne pas être ne pas les inviter pour une date isolée. Donc on est dans cette préoccupation d'essayer de monter des tournées pour que les artistes puissent rentabiliser, entre guillemets, du point de vue écologique, leur venue. Mais ça nous paraît évident et incontournable de ne pas se fermer et d'être exclusivement sur une programmation franco-française. Il faut évidemment ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'étranger et sur ce qui se passe à nos frontières et bien au-delà. Donc par exemple, c'est vrai qu'on invite An Immigrant Story de Wanjiru Kamuyu, qui est originaire du Kenya, qui a vécu aux États-Unis et qui est maintenant installée en France, et qui va nous parler, elle, de personnes déplacées, de personnes qui sont en situation de migration et qui pourraient tenter de trouver une vie meilleure. Donc c'est elle-même, elle a expérimenté cette situation, donc elle était partie aussi à la recherche de témoignages de personnes qui ont quitté leur pays pour cette vie meilleure, et donc elle est un peu porte-parole sur le plateau. Alors ce qui est intéressant aussi, je parlais d'accessibilité tout à l'heure, donc là j'y reviens, c'est qu'il s'agit maintenant d'un duo, c'est-à-dire qu'elle avait d'abord initialement créé un solo pour cette pièce, et puis elle l'a transformé en un duo, mais un véritable duo qu'elle a co-créé avec une artiste qui est danseuse et qui est signeuse LSF en langue des signes française. Donc ce qui veut dire que cette pièce a du texte, mais ce texte est intelligible aussi par les personnes qui connaissent la langue des signes, et par ailleurs cette pièce est audio décrite. C'est-à-dire qu'il y aura une personne en coulisses, enfin en régie plutôt, qui décrira la pièce chorégraphique aux personnes privées de la vue. Voilà, et ça c'est une première pour nous, donc on est très très curieux et hyper enthousiaste à cette idée-là.
Et bien justement, vous m'ôtez les questions de la bouche, puisque j'allais venir là-dessus, mais c'est très très bien que vous en parliez, que vous abordiez le sujet, parce que oui, on voit que la diversité culturelle, notamment, c'est un trait important de votre programmation, mais il y a aussi effectivement une recherche d'inclusivité, d'accessibilité, et effectivement, c'est ce que j'avais noté aussi, An Immigrant Story, et oui, c'est pas tous les lieux culturels qui proposent des spectacles signés et autodécrits, et comme vous le disiez, même pour vous, ça peut paraître un petit peu exclusif. C'est quelque chose qui est pensé désormais au niveau de la programmation, d'avoir ces spectacles un peu plus accessibles et comment est-ce qu'on s'organise quand on veut rendre des espaces culturels plus accessibles?
Alors, il y a deux aspects. Effectivement, c'est le inclus dans la proposition artistique, donc, véritablement dans la pièce. Donc, c'est ce qui nous a intéressé. Alors, pas uniquement, parce que la pièce en elle-même, évidemment, on la cautionne totalement et on la trouve vraiment, vraiment géniale. Mais par ailleurs, il y a ces deux aspects d'accessibilité qui se lient à tout le travail qui est fait depuis de nombreuses années par l'équipe, notamment d'Action culturelle, de rapprocher les publics empêchés de toute l'activité du triangle. Donc ça veut dire qu'il y a depuis, je crois, 3 années déjà, par exemple, un travail auprès de personnes de déficience visuelle, donc qui viennent déjà visiter le triangle, essayer de se repérer, donc ils viennent pour faire du repérage, pour pouvoir ensuite participer à des ateliers de pratiques artistiques, donc de danse notamment, pour pouvoir participer par exemple au marathon de la danse qui a lieu pendant le festival Waterproof, pour pouvoir ensuite passer la porte aussi de spectacles qui sont un peu accessibles même s'ils ne sont pas audio décrits. Donc voilà, on y va progressivement. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait aussi auprès des publics malentendants, donc signants ou pas, puisqu'on a aussi la boucle magnétique qui est accessible, et puis les sub-pack, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont ces sortes de gilets qu'on porte sur soi et qui nous font ressentir en fait la musique. C'est vraiment un des exemples, parce qu'il y en a mille. Enfin, c'est vraiment un travail de très très longue haleine qui fait que nos équipes d'action culturelle sont sur le terrain sans arrêt pour aller aussi auprès d'autres publics en EHPAD, des publics dans des IME, etc.
Et donc, bien sûr, il y a l'art, mais chez le Triangle, on sent quand même un certain art engagé, du féminisme avec l'exposition Voix de femmes, par exemple, le sujet de la migration qu'on a un petit peu abordé, de l'humain, même de la solitude et de l'isolement avec Voyage au bout de l'ennui. C'est important d'engager l'art en 2025. Comment est-ce qu'on défend l'art engagé, notamment quand on entend qu'il faut différencier l'homme de l'artiste, que la politique n'a rien à faire dans l'art? Comment vous voyez ça chez le Triangle?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a tellement de sujets graves, difficiles actuellement, qu'on ne peut pas... On ne peut pas passer à côté. Enfin, ça nous paraît complètement... impossible de se dire on va juste proposer des spectacles de danse et pas du tout s'intéresser aux questions sociétales, politiques, sociales, etc. Ça paraît complètement évident. Après, ce qui n'empêche pas malgré tout d'avoir des pièces plus légères qui nous apportent aussi un peu de respiration, un peu de légèreté. Donc on est dans cet équilibre-là qu'on essaye de garder pour garder aussi le moral et puis pouvoir embarquer tous les publics dans notre programmation.
Et pour conclure rapidement, est-ce que de votre côté, vous avez un rendez-vous incontournable cette année? Est-ce que vous avez votre préféré?
Ah, j'en ai 20. J'en ai 20, c'est difficile de choisir des spectacles. Enfin, quand on fait un choix de programmation, en fait, on n'a pas vraiment de préféré. Je vous inviterai aussi à venir découvrir le festival Waterproof, par exemple. C'est vraiment un moment. Alors là, ce n'est pas que le Triangle. Donc, je suis désolée, là, je réponds complètement à côté. Mais voilà, je me permets quand même. C'est vrai que c'est un temps dédié à la danse où on sera là cette année 27 partenaires, donc avec près de 70 rendez-vous qui sont autant spectacles, performances, des événements de pratique, des projections de films, etc. Donc il y a vraiment un foisonnement de propositions qui permettent d'entrer dans la danse par plein de biais différents, dans des structures différentes, et puis de circuler au milieu de tout ça, découvrir de nouvelles structures aussi qu'on n'aurait pas eu l'occasion de découvrir par ailleurs. Donc voilà, soyez les bienvenus dans ce festival Waterproof qui aura lieu fin janvier, début février.
Eh bien, on vous invite à aller vous faire votre préféré en visitant le site internet du Triangle pour voir toute la programmation et tout ce qui sera proposé. Merci beaucoup, Odile Baudou, d'être venue chez SILAB.
Merci beaucoup à vous.
Et on laisse évidemment les auditrices et auditeurs se renseigner sur chaque événement et on vous dit à bientôt. 6 avant minuit.
avant minuit.
L'année dernière, c'était le lundi. Cette année, ce sera le mardi. C'est l'heure de la chronique Fake News, tous les mardis dans 6 heures avant minuit. Aujourd'hui, on parle de Emmanuel et Brigitte Macron, le couple présidentiel qui a déposé plainte en juillet dernier à l'encontre de Candace Owens. Cette influenceuse trumpiste et complotiste rassemble une forte audience sur Internet et depuis 2024, elle diffuse du contenu affirmant que la première dame française est née homme. Romane revient sur les détails de cette affaire.
C'est une infox transphobe qui dure depuis des années. La question n'a pas atteint jusqu'ici le couple présidentiel, mais la chose n'est plus possible dès lors que cette rumeur devient mondiale. L'avocat américain d'Emmanuel et Brigitte Macron, Tom Clair, a affirmé à la BBC le 19 septembre dernier que le couple présidentiel engage des poursuites judiciaires. Des preuves scientifiques sont également sur le point d'être apportées. Objectif, démontrer que les déclarations de Candace Owens sont fausses. Les Macron accusent également Candace Owens d'affirmer faussement qu'ils sont tous les deux des parents consanguins et qu'Emmanuel Macron a été mis au pouvoir par un complot secret de la CIA.
Mais alors c'est qui exactement Candace Owens, Roman ?
À 36 ans, cette commentatrice politique américaine d'extrême droite est connue pour ses propos antisémites, transphobes et conspirationnistes. Avec plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram et 5,8 millions sur TikTok, elle est également connue, elle est également l'une des influenceuses conservatrices les plus suivies du pays. Sur ces mêmes plateformes, elle relaie depuis un an à ses millions d'abonnés une rumeur transphobe, affirmant que Brigitte Macron est née homme. Owens a notamment préfacé le livre complotiste « Becoming Brigitte » et diffusé une prétendue enquête de plusieurs vidéos sur ses réseaux.
Je vous montre une photo ici, Brigitte Proba-Hozière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami ? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles.
De fausses allégations qui durent pourtant depuis 2018, Natacha Ray, une femme accusée de diffamation par le couple présidentiel, elle est la première à affirmer que Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux ne seraient en fait qu'une seule et unique personne. Pardon. Natacha Ray a été condamnée en juillet dernier pour diffamation.
Donc je suis condamnée à 8000 euros de dommages et intérêts envers Brigitte Macron, 5000 euros envers son frère fantôme. Être condamnée par la Macronie, écoutez, moi je le prends comme une légion d'honneur. C'est un honneur, ça veut dire que je fais partie des vrais résistants, que je dérange vraiment le pouvoir. Vous savez, quand vous êtes condamnée par cette justice tout à fait partiale, inéquitable, par 3 juges qui ont été nommés par Macron, écoutez, c'est une décoration, c'est une médaille.
Revenons aux faits, Brigitte Macron et son frère, pour la concerner, la deepfake affecte depuis quelques années la première dame de France. La rumeur a pris davantage d'ampleur après être reprise par Xavier Poussard, directeur d'une revue d'extrême droite. Il décline cette rumeur dans le livre « Becoming Brigitte » préfacé par Candace Owens, mentionné précédemment, ce qui a poussé Brigitte Macron à s'exprimer au micro de RTL à ce sujet il y a 3 ans.
On a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ?
C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. J'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie.
Comment ça ?
C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis, d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible.
Mais c'est cet été que le couple Macron a décidé de réagir. Pourquoi ? Parce que cette affaire s'est étendue mondialement, notamment à cause de l'audience d'Owens. Après ces nouvelles poursuites judiciaires et les preuves qui vont être apportées au tribunal, le couple présidentiel souhaite en finir une bonne fois pour toutes avec cette rumeur.
Merci Romane pour ce décryptage et rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle chronique fake news. Je crois que notre répondeur clignote, non ? On écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
La radio sauvage.
Bonjour, je m'appelle Lina. J'ai 18 ans, je suis toujours au lycée. Et la dernière fois, j'étais dans la rue et on m'a donné un prospectus concernant la lutte ouvrière communiste. Et ce prospectus parlait de l'État palestinien et de la reconnaissance d'Emmanuel Macron et à quel point elle était hypocrite et tardive. Et qu'il a fallu 63 000 morts plus des centaines de milliers de blessés. Et je trouve que c'est urgent et que c'est important d'en parler parce que on assiste à un territoire impérialiste encore de nos jours, qui veut annexer des territoires et qui veut les exploiter. Tout comme, justement, c'est pour ça que ça rejoint la lutte ouvrière, c'est le capitalisme nous exploite aussi, si on veut parler en France ou aux États-Unis, les grandes puissances militaires et puissances politiques. Voilà, je trouvais que c'était important de parler de cet État palestinien qui se fait meurtrir, qui se fait assassiner, qu'il ne faut pas oublier tous les morts et qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé, qui sont plus que des erreurs, qui sont des crimes, des génocides. C'est important d'utiliser ce mot. Ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide et il faut ramener ce génocide justement à l'actualité parce que c'est très important. Voilà, merci.
Merci, chère auditrice, d'être intervenue au répondeur au micro de 6 heures avant minuit via son répondeur. Et faites comme cette auditrice, laissez-nous un message si vous avez envie de parler de quelque chose, si vous avez une idée de sujet, s'il se passe quelque chose près de chez vous, si vous avez un coup de gueule à faire, une déclaration d'amour, on prend, si on a déjà eu. Le numéro, je vous le redonne, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe. La radio sauvage.